Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditrices, auditeurs de la web Radio Rage, voix de jeunes, bonjour, bienvenue à notre diffusion continue spéciale à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire des événements d'octobre 88. La web Radio Rage a consacré cette semaine pour des entretiens, des reportages, des témoignages sur des événements d'octobre avec différents acteurs associatifs, syndicaux et politiques. Dans cette émission, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Madame Nassira Ditur, porte-parole de SOS Disparu. Madame, bonjour.
Oui, bonjour. Madame, bonjour à tous les auditeurs.
Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire des événements d'octobre 88, à cette époque-là, comment vous avez vécu les événements en tant que citoyenne algérienne?
En fait, moi, je les ai vécus de loin parce que à l'époque, j'habitais en France. Hein, j'ai eu l'information par les médias, au journal télévisé ou je ne sais plus, ou peut-être plutôt par téléphone. Je pense que c'est ma télé. Oui, c'est ma belle-sœur qui travaillait à l'époque à l'OIC, qui m'a appelé pour quand on s'appelait souvent, qui me disait que ici à Alger, ça tire dans tous les sens. Je me rappelle, la pauvre, elle était enceinte. Et à la sortie de son travail à 5 heures, ça a commencé à tirer. Je me rappelle qu'elle est rentrée chez elle, elle était sous le choc, sous l'émotion, parce que ça tirait de partout. Ils ont dû se baisser, se cacher avec mon frère qui était venu la chercher là. Et elle a eu beaucoup de mal à pouvoir trouver un moyen de transport, parce que normalement c'est le transport de l'entreprise, un moyen de transport pour rentrer à la maison.
C'était l'état de siège.
C'était vraiment, c'était horrible. Donc on l'a vécu quoi, plutôt dans la peur et dans l'inquiétude et l'angoisse. C'était parce que dans tout ce que... moi quand je pense au 5 octobre, je pense à je 5 octobre, je revois les années 90 où on n'entendait que des sirènes de police qui ululaient, qui hurlaient partout dans la ville, l'état de siège, les sacs de sable derrière un militaire. Moi j'étais pas sur place 5 octobre, donc quand j'y pense, je revois l'Algérie des années 90 et je me dis que c'était ça le 5 octobre. Ça tirait dans tous les sens. Il paraît que mon frère me disait aussi que le sang, les gens pissaient de sang partout, ça coulait, il y avait du sang de partout. Et derrière, il y avait les jets d'eau qui tout de suite s'attiraient, ils enlevaient les blessés, ils rapatriaient les blessés et puis tout de suite ils nettoyaient derrière avec des jets d'eau. Donc ce sont malheureusement les images que j'ai dû garder de ce 5 octobre, ce fameux 5 octobre 88. Et puis ce qu'on a lu dans la presse le lendemain, 500 morts, la presse algérienne parlait de 500 morts en une seule journée.
Voilà. C'est tragique.
C'était tragique, voilà, c'était une tragique. Tu as trouvé le mot, c'était tragique, plutôt. Mais bon, ce qui s'en est suivi après enfin, à l'époque, hein, on s'était dit, ça prouve que malheureusement, tout un combat a un résultat positif. Hein, donc, comment c'est arrivé le soulèvement? J'aime pas parler d'événements, c'était un soulèvement populaire, c'était un soulèvement de la population algérienne plutôt qu'un événement. C'était un soulèvement, c'était un ras-le-bol, c'était, je me rappelle des slogans, c'était non au FLN, non au parti unique, vive la démocratie, c'était ce que cherchait la population algérienne. Et bon, juste même pas une année après, on a entendu parler tout de suite de la révision de la Constitution, de l'amendement de la Constitution. Et puis il y a eu cette ouverture du multipartisme, de l'associatif, de par la Constitution. Donc on s'est dit qu'on était content que c'était pas 20.
Que l'Algérie a passé de parti unique au pluralisme. Quand même les jeunes sont réclamés de la liberté, ouais, etc. Mais malheureusement, qu'en est-il aujourd'hui, 30 ans à Paris?
Ouais, malheureusement, qu'en est-il aujourd'hui? C'est vrai qu'on a accueilli ces nouvelles dispositions de la Constitution avec le sourire, avec la joie même. C'est plus qu'un sourire, c'était une joie extraordinaire, parce qu'on s'est dit enfin on va pouvoir vivre libre dans notre pays, on va pouvoir travailler tranquillement en toute liberté, que les que que voilà, qu'on va pouvoir voter, choisir notre président, qu'on va choisir nos élus, qu'on va choisir nos députés, choisir nos partis politiques, choisir voilà, selon leur programme. On s'imaginait vite comment on s'imaginait en Europe, en train de voter avec toute une liste de partis et toute une liste de personnes qui se présentent et des programmes et tout ça. Malheureusement, qu'en est-il 30 ans après, ben, on a toujours, malgré qu'il y a des élections, hein, soi-disant des élections, mais on sait bien comment sont organisées ces élections, comment se déroulent ces élections, comment les partis politiques, pour certains, et je ne veux pas incriminer tout le monde, mais comment remplissent les listes parce qu'ils n'ont pas assez de militants à présenter. On sait comment ça se passe, et malheureusement, ce n'est pas du tout... C'est pire que la façade, c'est vraiment... tout est dans l'opacité, on comprend pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe jusqu'à la dernière minute. Bon, et puis quand on voit les résultats des urnes, bon, excusez-moi, là quand même, c'est toujours les mêmes qui l'emportent, le FLN et le RND. Bon, les deux partis uniques d'une autre génération.
Ça veut dire qu'il y a un recul énorme sur le plan des libertés quand on voit.
Non, on ne peut pas dire qu'il y a un recul parce qu'il n'y a jamais eu d'avancée. Donc, est-ce qu'il y a eu des avancées ? Il y a eu peut-être en 88, oui, en 88, 89, 90, 91, oui, effectivement, il y a eu des élections. Bon, on ne peut pas dire, on ne sait pas si c'était des élections libres, si elles n'avaient pas eu de fraude, mais d'après ce qu'on dit, moi je peux pas, j'y étais pas pour vérifier, mais on dit qu'il y a eu des élections libres, oui, pour la première fois. Et puis voilà ce qui s'est passé après. Le fils a failli emporter la victoire, les législatives en 91. Et voilà ce qui s'est passé après. On l'a payé très cher, malheureusement.
Oui,
on l'a payé très très cher.
Comme vous avez dit qu'après 88, tout le monde qui a pensé que l'Algérie va rentrer dans notre phase
démocratique.
Mais malheureusement, a plongé directement dans le chaos, dans une guerre sanglante, dans une guerre civile qui a duré 10 ans. D'ailleurs, si on va vous représenter aujourd'hui une association de SOS disparus en Algérie, quand il y a des disparitions forcées à cause de cette période, etc. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport au dossier de SOS disparus après 20 ans de lutte pour la vérité et la justice ?
On est toujours au même point de départ, hein. On est toujours à la recherche de nos enfants. On est toujours à la recherche de la vérité et de la justice. On est toujours à la recherche de réponses à nos questions, hein, toutes les questions qu'on se pose depuis tant d'années. Pourquoi de la chose et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu droit et pourquoi est-ce qu'on nous a enlevé même ce droit d'avoir une tombe et nous recueillir sur une tombe et aller pleurer nos enfants s'ils sont morts. Hein, parce que en tant que mère, et je ne le dirai jamais assez, en tant que mère, je pense que mon fils est toujours vivant, même si ça fait... aujourd'hui 21 ans, ça fait un peu plus de 21 ans maintenant. Je vais rentrer bientôt dans la 22e année de sa disparition, de la disparition de mon fils. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il est peut-être vivant et qu'il est peut-être dans une cellule et peut-être qu'ils l'ont oublié, qu'il était à l'isolement, dans un sous-sol d'une caserne ou au sous-sol d'une prison. Ou, je sais pas, moi, on peut imaginer beaucoup de choses, qu'il a été oublié là et que peut-être qu'un jour ils vont découvrir qu'il y a des personnes. Bon, tout en parlant, j'ai des images de cette scène que je décris là. Si mon fils était vivant et qu'il se trouvait dans une cellule, j'allais dire une cage, oui, pourquoi pas, c'est le mot, hein, c'est synopsis, mais bon, on peut pas les oublier parce qu'ils doivent leur donner à manger, qu'ils doivent leur donner à boire, qu'est-ce qu'ils se lavent, est-ce qu'ils s'habillent. C'est des questions qu'on n'arrête pas de se poser, hein. Ça n'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas la preuve physique que nos enfants sont, mon enfant, je peux pas parler au nom des autres, que mon enfant est mort et décédé, qu'il ne reviendra plus jamais. Je tiens quand même à retrouver ce qu'il en reste et à ce moment-là, c'est à ce moment-là peut-être que je pourrais faire mon deuil et me dire que Camine, mon fils, ne reviendra plus. Qu'en est-il des dossiers? Ce qu'on a réussi, avec une grande fierté, avec un grand R, avec un grand F, fierté égale grand F, c'est que nous avons quand même tenu bon et que nous sommes toujours là, nous sommes toujours présents sur la présente, parce que la majorité ce sont des femmes. Il y a des hommes aussi qui manifestent avec nous, qui sont à nos côtés, qui cherchent leurs enfants comme nous, les mères, les papas aussi, les frères. Il y a des frères qui ont repris le flambeau de leurs parents.
C'est une résistance quand on voit des mamans malgré l'âge, malgré la maladie, malgré qu'elles résistent toujours, qu'elles se rassemblent chaque
C'est une agréable, c'est une pensée agréable que j'ai envers toutes ces mamans là qui sont là le mercredi, qui sont là quand on les appelle, comme hier c'était la. Hier, c'était l'anniversaire de la charte, malheureusement pour nous, la charte de l'impunité. C'était le 13e anniversaire de la charte de l'impunité. Et on appelle les familles en toute discrétion pour pas que les forces de police, les forces de l'ordre nous empêchent de manifester. Et on leur dit le lieu où on doit se rassembler et puis elles viennent quand même.
Comment vous considérez cette charte OSOS disparue? C'est clair. La charte qui n'a pas vraiment une charte sans vérité, sans justice, sans.
C'est une charte sans réconciliation, c'est une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Mais où est la réconciliation? Justement. Ils ont réconcilié qui avec qui? Bon, on nous dit comme ça, certains membres des autorités nous disent, bon, le président a demandé pardon, mais il a demandé, il n'est jamais venu me demander pardon à moi. Est-ce qu'il s'est adressé? Il est venu me voir, il s'est demandé me demander pardon. Est-ce qu'il m'a dit ce que je dois pardonner? C'est facile de demander pardon. Mais qu'est-ce que je dois pardonner? Je ne peux pas pardonner si on me. Déjà, on ne peut pas pardonner si on ne vient pas me demander pardon, et je ne peux pas pardonner si on ne me dit pas ce que je dois pardonner. Donc, pour qu'il y ait un pardon, il doit y avoir un délit, il doit y avoir un fait bien précis. Donc, pardonner de quoi? D'avoir pris mon fils et d'avoir fait ce qu'ils ont voulu avec, et d'avoir jeté peut-être aux oubliettes, ou peut-être qu'ils l'ont tué sous la torture? Je ne peux pas pardonner ça. Je vais pas, ce n'est pas de la vengeance, je n'ai pas envie de me venger après toutes ces années, c'est de douleur, des années de désespoir, des années de d'espoir, parce qu'on espère retrouver et on désespère au bout de quelque temps. Mais je n'ai pas envie de. Aujourd'hui, ce sentiment, c'est plus de l'estimation. Pour dire franchement, c'était vraiment de la haine au départ que j'avais envers toutes ces auteurs de ce crime odieux. Mais maintenant, je ne sais pas. Je ne peux pas dire vraiment si. Je ne sais plus. Je me contredis moi-même. Mais est-ce que c'était de la haine? Est-ce que c'était de la douleur? Est-ce que c'est juste de la colère? Est-ce que c'est de l'amertume? Est-ce que. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment définir ça. Mais aujourd'hui, je peux en parler avec. Je peux en parler avec plus de sérénité. Je peux en parler avec plus de calme. Je n'ai plus cette remontée de colère et de rage et de sentiment d'impuissance parce que je n'ai pas trouvé mon fils, ou peut-être pas seulement parce que je n'ai pas trouvé, parce que je les ai laissés le prendre, mon fils. Donc c'est une culpabilité aussi qu'on ressent, nous, les mères de disparus. Pourquoi j'ai laissé mon fils? Est-ce que je les ai laissés prendre mon fils? Pourquoi je n'ai pas sauvé mon fils? Et pourquoi je n'ai pas été avec lui? Et pourquoi je ne me suis pas accrochée à lui pour savoir où ils vont l'emmener? Et je reste avec mon fils jusqu'à mon dernier souffle. C'est tous ces sentiments-là qu'on ressent. Mais notre fierté aujourd'hui, c'est que nous avons tenu bon et nous sommes encore visibles sur la scène publique nationale et internationale. Donc ils n'ont pas pu nous décourager. Nous sommes restés déterminés. Ils n'ont pas réussi à nous décourager. Ils n'ont pas réussi à nous arrêter, ils n'ont pas réussi à nous faire taire, même s'ils nous ont, avec la charte, imposé le silence, parce que cette charte de la honte, c'est vraiment, elle nous dit, taisez-vous, vous n'avez plus le droit de parler, sinon vous allez en prison. Quiconque ternit l'image de son pays au niveau national, international, est passible de 3 à 5 ans de prison. Donc ça veut dire, taisez-vous, sinon vous allez en prison. Eh bien, comme disent certains, nous sommes déjà en prison. C'est une prison, l'Algérie est une grande prison, et nous nous sommes enfermés dans notre douleur. Donc nous sommes déjà en prison. Tout ce qu'on veut, c'est sortir de cette prison, mais avec le bonheur de retrouver nos enfants, ou avec le bonheur de savoir ce qu'ils ont fait de nos enfants, et même si on ne les retrouve pas vivants, qu'on retrouve leur reste. Cette charte nous a imposé le silence, ils nous ont imposé la réconciliation, on ne sait pas avec qui on s'est réconcilié, on n'a plus le droit de s'adresser à la justice, donc déjà que la justice dans notre pays, on sait ce qu'elle est, nous n'avons pas une justice indépendante, donc même si elle n'est pas indépendante, et que jusqu'à maintenant, toutes les plaintes qu'on a déposées auprès de la justice ont été rendues en on nous a rendu des non-lieux, on n'a jamais eu gain de cause, ça n'a jamais été jusqu'au bout, non-lieu de quoi, je ne sais pas. On dépose plainte pour enlèvement et disparition et séquestration, et puis on nous rend un non-lieu. Et aujourd'hui, on n'a même plus le droit de s'adresser à la justice par la charte, l'article 45 de la charte, dit que nul n'a le droit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement servi la nation.
Justement, tout le monde sache aujourd'hui que impossible que la page sera tournée sans qu'il y ait justice et sans qu'il y ait vérité. Le dossier des disparitions forcées en Algérie, il s'impose toujours. Est-ce que vous avez eu des réponses concrètes de la part des autorités dans le cadre officiel, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs gouvernements qui ont succédé au pouvoir depuis 1999 à ce jour, et même dans un cadre pas officiel, peut-être avec des anciens responsables qui ont été responsables à cette époque-là. Est-ce que vous avez comme ça des réponses sur...
Non, écoutez, les autorités algériennes nous ignorent. Elle méprise, c'est le mépris total, il n'y a aucune réponse, même par écrit, ni oralement. La seule réponse qu'on a eue, c'est cette charte, avec laquelle ils nous ont foudroyés, mais on a tenu bon. Cette charte, c'était comme un couteau dans le dos qu'on a reçu, parce qu'on croyait vraiment, en 2005, quand il y a eu le référendum sur la charte, on croyait vraiment, avant ce référendum, on croyait vraiment que les autorités avaient la volonté de faire la vérité. Ce serait trop leur raconter, mais il y a eu un événement auparavant qui nous a laissé croire que les autorités allaient enfin nous dire la vérité, qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils étaient vraiment en train de faire des recherches pour retrouver nos disparus. Mais après, ils nous ont pondu cette charte et le référendum de cette charte. Et quand on a vu le contenu de cette charte, on a commencé à alerter l'opinion nationale. On a commencé par alerter l'opinion nationale contre cette charte, parce que cette charte nous impose le silence. Il nous dit de tourner la page et nous impose l'oubli. Il faut oublier les années 90, alors qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu tant de sang qui a coulé, il y a eu tant de violence. Et tous ces gens qui ont grandi, tous ces enfants qui ont grandi dans la violence, on voit le pays dans quel état il est aujourd'hui. On voit la jeunesse dans quel état elle est. On voit tous ces jeunes qui partent, qui préfèrent prendre la barque et aller se tuer en mer. À leur risque et péril, ils prennent leur barque et ils s'en vont, sachant tous les risques qu'ils encourent, et que de rester dans ce pays. Donc
Oui, sur le plan international, vous avez parlé d'Algérie dans la 23e, je pense, session du comité du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quand même, l'Algérie a été examinée par ce conseil. Est-ce que vous pensez que l'Algérie aujourd'hui, le pouvoir algérien, est arrangé sur le plan international par rapport à cette question de disparition forcée? Elle reste aussi un obstacle pour lui vis-à-vis des instances internationales et des instances des droits de l'homme.
Non, mais c'est un boulet qu'ils traînent au pied, hein, les autorités algériennes, parce qu'ils n'ont pas pu se débarrasser de nous comme ça, aussi facilement. C'est pour ça que je dis que c'est notre fierté, notre grande fierté, c'est qu'on a réussi à nous maintenir debout et visible. Donc, et quand je dis qu'on est resté visible sur le plan non seulement national, mais aussi sur le plan international, c'est justement en pensant à tous ces mécanismes internationaux et en pensant au dernier l'examen de l'Algérie par le Comité des droits de l'homme en juillet 2018. Donc c'est tout récent, nous étions présents, nous sommes partis à Genève, nous étions quatre familles de disparus présentes à Genève pendant tout le déroulement avant et pendant. Nous avons pu intervenir en session publique auprès des experts du Comité des droits de l'homme. On a pu s'entretenir avec les experts individuellement, avec les experts du comité. Nous avons pu aussi les rencontrer dans une autre réunion qui était plus formelle, qui était fermée. Et exprimer nos revendications, exprimer nos inquiétudes, parler des disparus. On a abordé le problème des tombes sous X dans les cimetières algériens, et notamment la plus grande partie de ces tombes sous X se trouve au cimetière d'Al Ahliya. On a demandé à ce que ces tombes soient, qui demandent à l'Algérie d'ouvrir ces tombes pour qu'on sache enfin qui est enterré dans ces tombes. Malheureusement, c'est un chiffre affolant. Quand on parle de 3000 tombes sous X au cimetière d'Al Ahliya, c'est vraiment affolant, sachant que dans une tombe, il n'y a pas qu'une seule personne, d'après les témoignages qu'on a recueillis, que ce n'est pas qu'une seule personne qui est enterrée dans cette tombe, mais il y en a plusieurs. Donc, et ce qui est notre grande fierté, notre grand soulagement et notre... Notre joie, c'est que vraiment les experts du Comité des droits de l'homme des Nations Unies ont vraiment relevé toutes les questions que nous avons abordées avec eux. Ils ont relevé toutes les questions parce que l'Algérie fournit un rapport sur les droits de l'homme, sur le respect des droits de l'homme en Algérie, qui est examiné par les experts du Comité. Mais nous, les ONG, les associations, nous avons aussi le droit de présenter des rapports alternatifs, ce qu'on appelle des rapports alternatifs. Et nous avons remarqué et constaté que les experts, dans leurs questions à la délégation algérienne, ils ont tous repris les questions mot à mot qu'il y avait dans nos rapports et les questions que nous avons abordées avec eux. Donc notre travail n'a pas été vain, ce n'était pas, même si ça nous a demandé beaucoup d'heures de travail et moins d'heures de sommeil, parce qu'il y a des délais quand même pour rendre ces rapports et il faut préparer tout ça. Nous avons été réconfortés dans
notre travail. Vous avez réussi de faire un rapport. Voilà, et d'ailleurs,
nous avons été réconfortés dans notre travail, puisqu'ils ont repris. Donc il y a les grandes questions, il y a énormément de questions sur la question des disparus, sur les familles de disparus, sur la question des disparus, sur la violence dans les rassemblements, quand on est arrêté, quand on est malmené, frappé par la police, quand on est embarqué dans les fourgons de police et qu'on nous emmène au poste comme des malpropres, alors qu'on est sorti dans la rue juste pour prendre les photos de nos fils et dire où sont-ils. Ça les dérange en quoi que nous faisons une manifestation, que nous pouvons nous soulager en hurlant nos slogans sur nos enfants, et puis après on rentre chez nous. Mais non, ils n'ont pas cette intelligence de nous laisser faire, dire voilà, on va les laisser pendant 2 ou 3 heures s'égosiller à dire où sont nos enfants, et puis elles vont rentrer chez elles. Mais non, au contraire, ils viennent, ils nous arrêtent, ils nous emmènent au poste de police, et après ça fait couler de l'encre. Comme ça on peut dire, voilà, ils nous ont envoyé les autorités algériennes. Ce sont des violents, ils frappent des mères. Moi, je suis la plus jeune des mères, j'ai 63 ans.
Dans longtemps la liberté associative. Et d'ailleurs, sur ce sens, vous avez lancé une initiative par rapport à la loi 206. Quel est le contenu de cette initiative que vous avez lancée avec d'autres partenaires, avec d'autres associations?
Ouais, donc nous avons convenu et décidé avec d'autres associations algériennes de proposer une loi alternative, proposer aux autorités algériennes une loi alternative à la loi sur les associations, la loi qui entrera en vigueur en 2015, janvier 2014. Donc cette loi, elle ne nous convient pas parce qu'elle est liberticide, elle nous met des freins à la création, mais pas seulement des freins, elle durcit la procédure pour créer une association. Non seulement elle durcit la procédure pour créer une association, mais en plus elle menace de prison, 6 mois de prison, quiconque milite dans une association non agréée. Alors que dans l'ancienne loi, c'était une loi qui était à régime déclaratif, il suffisait dans la loi, sur le papier, mais pas dans la pratique, parce qu'il y a aussi la pratique. Mais normalement, quand on lit l'ancienne loi, la loi 90-31, il est clair que c'est un régime déclaratif, c'est pas un régime d'agrément, il suffit de se constituer en association, de faire une assemblée générale, comme on voit dans les pays développés, et d'aller à la préfecture avec les statuts et le PV d'Assemblée Générale et déposer et déclarer l'association à la préfecture. Mais bon, dans la pratique, ce n'était pas le cas, parce que dans la pratique, il faut quand même qu'un huissier de justice soit présent pendant l'Assemblée Générale. Il faut. Bon, je n'ai pas le temps de tout énumérer. Mais dans cette nouvelle loi 1206 de 2014, tout ce qui était dans la pratique a été incorporé dans la loi. Donc maintenant, c'est devenu légal que ce n'est plus un des régimes déclaratifs, c'est un régime d'agrément. Il faut vraiment demander à l'agrément. Et c'est à la prestation de l'administration. C'est l'administration qui peut dire oui ou non, on vous donne cet agrément, on vous autorise. Voilà. C'est l'administration aussi qui aujourd'hui peut dissoudre une association. Il y a un article, j'ai plus l'article 34, je crois, de la loi sur les associations qui dit que une association peut être dissoute si les membres s'ingèrent dans les affaires politiques du pays.
Mais quelles sont les affaires politiques?
Les affaires du pays, je ne sais plus s'il y a le mot politique, mais si elles s'ingèrent dans les affaires du pays. Je ne pense pas qu'il y a politique, je ne sais plus. Mais si elles s'ingèrent dans les affaires du pays. Et si je ne m'ingère pas dans les affaires du pays, je vais aller regarder les affaires des autres pays. Je vais aller m'ingérer chez les autres, chez nos voisins, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font? Si je ne m'intéresse pas aux affaires politiques de mon pays, ce qui se passe dans toute la vie politique, tout est politique. Sur le devant de la scène, tout est politique.
C'est une manière pour limiter le travail associatif.
aux affaires de mon pays, je vais m'intéresser à quelles affaires?
Justement. Oui, Madame Nassera, donc nous préparons le temps. Si vous avez un dernier mot à dire à l'occasion de cette commémoration de 30e anniversaire des événements d'octobre 88, un dernier mot pour les...
Ce que je pourrais dire, c'est que nous devons rendre hommage à la mémoire de toutes les victimes de ce 5 octobre 1988. Et pas leur rendre hommage seulement par la parole et la pensée, leur rendre hommage en essayant de nous sortir de cette de comment dire de j'allais dire du pétrin dans lequel on est, de cet enfermement, de cet étouffement dans lequel on se trouve, en commençant par venir militer à nos côtés et venir nous soutenir pas seulement les mères de disparus. Quand je dis nous, je parle de la population algérienne qui essaye de s'en sortir et d'essaye d'avoir de mettre en place toutes les bases d'un état de droit, pour l'instauration d'un état de droit, pour les libertés individuelles. Nous devons nous retrousser nos manches et nous mettre à travailler pour que nous puissions vivre libres, parce que cette liberté, on a soif de liberté et nous ne la ressentons pas dans notre pays. On vit au jour le jour, mais on ne se sent pas libre. Et quand je dis « on », je sais de quoi je parle. Je ne parle pas seulement de moi, je parle de tout mon entourage, je parle de ma famille, je parle... Tout le monde elle pense la même chose, mais il y en a qui osent le dire haut et fort et d'autres qui n'osent pas le dire parce que bon, on leur fait peur.
Exactement. Merci beaucoup, Madame Nassera Ditour, porte-parole de Espace Disparu, d'avoir répondu à l'invitation d'Orage et pour ce débat. Auditeurs et auditeurs de la web Radio Rage, notre semaine continue avec d'autres entretiens. On vous donne rendez-vous prochainement. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.